Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Cette semaine, dans vos carnets de région, de l'émotion et surtout de l'action. Radio Grille Ouverte nous emmène dans un festival à Vauvert où les différences nous rendent plus forts. Et puis, l'écologie prendra place avec Radio Escapade qui nous parlera de la 16e édition des Éco-Dialogues du Vigan. Nous entrerons ensuite dans le fantastique monde de Tolkien avec le conteur Benoît Ramos pour Radio FM+. Radio FM+, qui redonnera son micro à l'humoriste Jérémy Ferrari qui nous parlera de son spectacle « Alléluia bordel » sur le thème de la religion. Puis place à la comédie et plus précisément au Printemps des comédiens qui commencera le 3 juin prochain, détail du programme par RCF Hérault. Et puis Radio Aviva est allé suivre le dernier concert de l'Opéra Orchestre National de Montpellier, auquel étaient invités les bénéficiaires de la Banque Alimentaire de l'Hérault. Puis pour finir, la deuxième édition de la Journée des Ressources Éducatives avec RCF Pays d'Aude, qui se déroulera à Carcassonne sur le thème du jeu.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croustillon.
Le 11 et 12 avril à Vauvert se tiendra le Festival annuel du livre contre les discriminations. Et pour sa deuxième année, le festival aura comme thème les révolutions sexuelles, thème incarné par le mouvement LGBT. Une actualité incontournable comme nous le rappelle la fondatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert, Marion Mazoric, au micro de Yves Defagot, pour Radio Grille Ouverte.
Aujourd'hui, la culture homosexuelle a été très reconnue, en particulier auprès des... dans les milieux artistiques, dans les milieux institutionnels, etc. Mais par contre, au quotidien, c'est des différences qui sont encore dures à vivre et qui sont encore... qui crée encore vraiment des réactions de discrimination. On a vu que dans la France aujourd'hui, on avait à la fois une recrudescence de la des diversités, de l'enrichissement mutuel et de la fraternité. D'ailleurs, en fait, c'est le premier mot qui caractérise notre festival, c'est le festival du livre pour la fraternité et contre les discriminations. Et effectivement, on a mis le mot fraternité en avant parce que la France est un pays, le pays de la fraternité, hein, c'est le pays de la liberté, égalité, fraternité. Et on est riche de, enfin, on est une terre d'immigration, on est une terre de mélange, on est une terre de cultures différentes. Donc chaque année, le principe, c'est d'aborder une pratique, une population, un fait culturel discriminé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en France, l'année dernière, c'était un sujet au cœur du débat, avec vraiment une forte tentation de jugement moral, d'exclusion de citoyens à partir de leurs différences sexuelles. Donc, bon, ben voilà, ce festival est fait pour justement qu'on arrive à vivre dans un pays où tout le monde assume et s'enrichit des différences de l'autre.
Seront présents au cours de ces deux journées notamment des romanciers de renom, Ayerdal, auteur de science-fiction, ou encore des associations qui seront sur place. Et en clôture de cet événement, un concert à la salle de Bizet à Vauvert avec la révélation underground des Inrecuptibles, la sulfureuse Déborah Dégout. 4 ans maintenant que les Éco-Dialogues occupent une place majeure dans la programmation culturelle de la ville du Vigan. Fraîchement réélu, le maire Éric Doulcier, étiqueté Europe Écologie, a lancé ses rencontres lors de son premier mandat et depuis, elles n'ont cessé de se développer. Au point qu'une sorte de licence Éco-Dialogue s'exporte dans d'autres villes. Ce week-end a lieu la 16e édition des Éco-Dialogues sur le thème « Des animaux et des hommes ». Pierre Muller est élu adjoint à la mairie du Vigan. Et éco-dialoguiste de la première heure, il nous présente ses rencontres au micro de Rémi Goujon pour Radio Escapade.
Les éco-dialogues, c'est traiter des thématiques autour de l'homme et son environnement. Donc il y a eu déjà des quantités de thèmes qui ont été abordés. C'est un collectif entre la mairie, les élus et puis des éco-dialoguistes qui sans qui ça ne pourrait pas avoir lieu parce qu'ils sont très, très efficaces et très actifs. Il y a eu en prime, si je puis dire, il y a quelques mois, des éco-dialogues délocalisés à Bédarieux. Bédarieux a fait sa première des éco-dialogues, ils en referont, et c'était sur le thème du paysage. C'était très intéressant, d'ailleurs il y a eu beaucoup de succès, et il y aura peut-être d'autres villes qui vont... donc les éco-dialogues, c'est une petite graine qui va essaimer, on espère, au fil du temps. Alors c'est le thème des animaux et des hommes, donc c'est un thème extrêmement large. On a essayé de le cerner, c'est toujours difficile d'être très complet parce que sur un tel thème, ce qu'on peut dire c'est que les hommes aiment les animaux, et alors ils aiment les animaux de compagnie pour les caresser, ils aiment leur monter sur le dos, ils aiment les élever pour le lait, ils aiment les manger aussi. Donc il y a des rapports assez complexes et des fois ambigus entre l'homme et l'animal, donc on aura un philosophe qui s'appelle Hicham Stéphane Afessa, qui viendra parler de l'éthique sur le monde animal. Puis on aura deux autres grandes conférences sur les rapports des forestiers de Bornéo avec leurs sangliers, comment ils vivent et comment les sangliers vivent par rapport aux chasseurs et les chasseurs par rapport aux sangliers.
Pour intéresser des gens en vegan aussi.
Voilà, ça a priori. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sangliers par chez nous, mais nous on est habillés, on n'est pas encore à courir derrière les sangliers avec des arcs et des flèches. Voilà, alors bon, c'est du vendredi. Ça commence le jeudi soir hein, avec une conférence. Et puis c'est jusqu'au dimanche, et il y aura même des animations pour les enfants avec quelqu'un qui amènera des ânes et qui fera évoluer les enfants avec leur faire connaissance avec les ânes. Voilà.
Les contes, ce n'est pas que pour les enfants, et ce n'est pas Benoît Ramos qui va nous dire le contraire. En effet, le conteur fan de l'écrivain Tolkien a décidé de reprendre une de ses œuvres, le Silmarillion. Cette histoire, pour petits et grands, reprend les légendes à l'origine des Seigneurs des Anneaux. Au micro de Maxime Triano de Radio FM+, Benoît Ramos nous raconte son Silmarillion.
J'emmène les gens beaucoup moins loin qu'ils se l'imaginent, puisque globalement, ces histoires se passent à peu près sous nos latitudes. Mais il y a vraiment, mais vraiment très très longtemps, on va dire que ça doit faire à peu près il y a 15 ou 16 000 ans. L'histoire, en fait, c'est une histoire mythologique qui raconte les premiers temps du monde à l'époque où les humains n'étaient pas les seuls habitants du monde, puisqu'il y avait aussi les elfes qui partageaient le monde. Et le Silmarillion, en fait, c'est la grande épopée mythologique des elfes. Tolkien a fait comme si on avait retrouvé un vieux texte qui serait une espèce d'équivalent elfique de l'Iliade ou de l'Odyssée. Donc un vieux texte qui parle de temps anciens. Ce sont les légendes elfiques racontées par les elfes pour les elfes.
Et pourquoi ce choix? Pourquoi vous êtes orienté vers Tolkien?
Parce que c'est mon auteur préféré, tout simplement, et pour des tas de raisons. D'abord, mon plus grand rêve en tant que conteur, ce serait de raconter Le Seigneur des Anneaux, mais c'est un travail titanesque, ne serait-ce qu'en termes de demande de droits. À partir du moment où un studio cinéma appliqué, c'est tout de suite très compliqué. Et ça demande des moyens et du temps. Et pour la raison simple, c'est que j'ai commencé à découvrir Tolkien, je le raconte dans le spectacle quand j'avais 8 ou 10 ans. Il m'a toujours accompagné depuis. Et j'ai un mal fou à comprendre l'idée générale qui est de dire que c'est pas un auteur, alors que c'est l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et pas un grand écrivain de fantasy ou de sous-genre quelconque, c'est un grand écrivain tout court. En Angleterre, il est extrêmement respecté. En France, on commence un peu à avoir des recherches universitaires sur lui. Le CNRS récemment a édité un dictionnaire Tolkien il y a un an et demi à peu près. Et c'est l'un des écrivains qui a l'écriture la plus précise qu'on puisse trouver, contrairement à ce qu'on imagine. Et ensuite, en tant que conteur, Tolkien et moi avons de très nombreuses affinités, notamment sur l'idée que le conte, c'est pas pour les enfants, Tolkien a récusé cette idée aussi, et que rêver et imaginer d'autres choses, c'est pas de la lâcheté par rapport au monde, c'est pas quelque chose de pas sérieux, c'est quelque chose de très sérieux et d'indispensable. Parce que ça ne peut être que comme ça qu'à un moment, on va combattre la laideur du quotidien. Si on se contente en littérature, c'est-à-dire c'est pas qu'il faut pas le faire, mais si on se contente en littérature de ne faire que reproduire le quotidien, au final c'est une espèce de soumission au monde, ce n'est plus une résistance. Tolkien avait choisi la résistance par l'imagination, et en tant que conteur c'est ce que je fais aussi.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et on retrouve Maxime Triano d'FM+, qui nous parle de Jérémy Ferrari, qui sera vendredi 18 avril prochain à 20h30 au Zénith de Montpellier pour interpréter son spectacle Alléluia Bordel. Dans ce one-man show, l'humoriste révélé dans l'émission On ne demande qu'à en rire se sert des textes des trois principales religions monothéistes. Au micro de Maxime Triano, l'humoriste nous explique ce choix.
Ce spectacle, même si vous en foutez totalement de la religion, il vous fera marrer. C'est un spectacle qui est très accessible et il y a plein de lectures différentes. J'ai d'abord primé l'efficacité, parce qu'il ne faut jamais oublier que d'abord les gens sont venus pour se marrer. Donc moi je prime beaucoup sur l'efficacité, je veux que les gens y ressortent en disant « putain, qu'est-ce qu'on a rigolé ?» Après, si derrière il y a un message et du fond, tant mieux. Pour les religions, c'était hyper important de faire ce que personne n'avait jamais fait. Et effectivement, personne, même aux États-Unis où la religion est un sujet assez récurrent chez les humoristes, personne n'avait jamais amené les textes sur scène. Et j'ai dit, c'est quand même incroyable, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut amener les textes en disant, est-ce que vous avez lu? Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui n'ont jamais lu. Il y a beaucoup de croyants qui pensent connaître la religion, qui pensent avoir une idée sur la religion, sans savoir ce qui est réellement inscrit dans les textes. Et d'ailleurs, la première partie du spectacle, où effectivement, j'ai les textes dans la main et je lis des passages, les gens hallucinent de ce qui peut être marqué dans la Bible. C'est pour ça que régulièrement, je descends dans le public et je fais lire aux gens pour qu'ils se rendent compte de ce qui est inscrit. Donc, c'était important aussi pour respecter les croyants. Parce que moi, mon spectacle, il se moque des extrémistes, il se moque pas de la foi. les gens font ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je suis athée, mais j'ai un grand respect pour la foi et je comprends totalement que des gens puissent croire et que ça leur fasse du bien. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on commence à exclure, tuer ou dissocier certaines communautés parce qu'elles n'ont pas la même religion que vous. C'est ça qui me dérange. Toute forme d'extrémisme est à combattre. Donc, pour combattre ces extrémistes, il faut connaître son sujet. Parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, les extrémistes sont pas des gens qui connaissent pas bien la religion, hein. Ce sont des gens qui la connaissent très, très bien. Donc, c'est ça ce qui me fait marrer, c'est que quand vous voyez des prêtres, des rabbins, des imams ou des pasteurs ne choisir des pages en disant, vous voyez, ça prône que l'amour, c'est parce qu'ils ont sauté quatre pages, où ça disait, tue ton voisin s'il n'est pas de ta religion. Donc, ce que je dis simplement, c'est qu'il y a des très belles choses dans les textes, mais il faut pas se voiler la face. Il faut pas dire, il y a que ça, parce que c'est pas vrai. Il y a aussi des choses qui sont terribles dans les textes. Donc, c'est pas en cachant le problème qu'on le résout.
Du coup, en étant dans la provocation, même si c'est pour dénoncer, vous n'avez pas peur pour vous, tout simplement, pour votre sécurité?
Les problèmes que j'ai pu avoir avec le spectacle ou avec les sketchs que j'ai pu faire sont obligatoires. À partir du moment où vous décidez d'aller mettre les mains dans le cambouis, vous ne pouvez pas décider d'avoir les mains propres en sortant. Donc c'est obligatoire d'avoir des problèmes quand vous tenez les propos que je tiens. Maintenant, ils sont minimes. Ce que je veux dire, c'est que déjà, je les accepte. Je comprends totalement que des gens aient envie de me péter la gueule. Puis ça fait partie de mon taf. Très sincèrement, vraiment, j'en ai un peu rien à foutre. C'est-à-dire que je sais que moi, ce que je fais pour les bonnes raisons. Quand vous avez un mec en face de moi qui vient me dire que je suis un raciste, parce qu'il a vu un sketch où je joue un raciste, c'est triste pour lui, pas pour moi. Si lui, il n'a pas compris que j'étais en train de le défendre, bah, tant pis pour lui. Je vais pas lui expliquer que c'est un sketch. Il ne l'a pas compris par lui-même, il ne le comprendra jamais. Comme les associations que j'ai pu avoir sur le dos à des moments qui m'ont dit « tu n'avais pas le droit de faire ça, tu n'avais pas le droit de faire ça », je sais ce que je veux. Et je pense qu'un bon sketch où on humilie un raciste est beaucoup plus efficace qu'un discours politique mièvre, que la moitié des gens ne comprennent pas, parce qu'en plus, ils parlent, on ne comprend rien quand ils parlent. Donc je fais ce que je veux. Et les gens qui sont pas contents, tant pis pour eux, vraiment. Le spectacle, on a quand même fait 250 000 spectateurs. Donc je vais vous dire que si il y en a 5 qui sont venus m'attendre à la sortie pour me péter la gueule, franchement, c'est pas très grave.
On parle à présent du Printemps des comédiens. La 28e édition débutera le mardi 3 juin prochain. Ce sont près de 22 spectacles et 78 représentations qui vont être jouées un peu partout en Montpellier, principalement au Domaine d'Eau. L'accent est mis cette année sur des thèmes comme la famille ou encore les relations humaines. Jean Varela est le directeur du festival. Il nous présente les moments forts de ces 4 semaines de spectacle. Il est au micro de Romain Bercher de RCF Héros.
Ça sera la création de Pépinton avec Vader, la recréation pour le plein air du Misanthrope mis en scène par Jean-François Sivadier, la venue de l'immense Ivo Vanov avec Bergman pour Après la répétition et Persona. Voilà les moments forts en théâtre, et les moments forts en cirque seront Petit Mal par la compagnie finlandaise à l'Amphido, et puis le Cirque Plume qui revient une troisième fois avec son nouveau spectacle à Montpellier.
C'est pas justement un peu dur de faire cette programmation chaque année? Quand vous commencez cette programmation, vous vous dites quoi?
C'est à la fois exaltant, passionnant et des fois désespérant, parce qu'il faut d'abord arriver économiquement à monter le programme, il faut arriver à convaincre les artistes de venir, il faut trouver cet équilibre, il faut résoudre les problèmes techniques qui se posent, donc mille questions, mille problématiques sont à résoudre et nous le faisons en équipe au Printemps des comédiens, mais c'est une tâche qui est passionnante parce que elle permet de faire vivre le théâtre d'aujourd'hui dans cette grande aventure qu'est la décentralisation et le service public de la culture en France.
Alors toujours en regardant cette programmation, on le voit, cette 28e édition évoque de nombreux thèmes qui sont aussi au cœur un petit peu de l'actualité. Je parle de la famille, de l'argent un petit peu, des relations humaines plus généralement. Pourquoi avoir choisi ces thèmes-là en particulier?
Je ne les ai pas véritablement choisis. C'est les artistes qui proposent. C'est les artistes qui posent la question de la place de l'argent dans la société quand ils veulent monter Le Capital de Marx ou quand Jacques Allaire monte Marx Matériaux. C'est qu'il y a un vrai questionnement. C'est les artistes qui posent la question de la nécessité de l'art dans la cité et dans nos vies. Et ça, c'est Ivo Vanov quand il monte les deux scénarios de Bergman Après la répétition et Persona, ou quand Rodrigo Garcia monte Golgotha Picnic, qu'est-ce que la vulgarité, qu'est-ce que la place de l'art dans la société. Donc moi, après, je suis le réceptacle des projets, des artistes, et j'essaie d'articuler, de donner un sens au mois de juin au Domaine d'Eau.
Ça rejoint un petit peu cette idée que vous avez évoquée tout à l'heure de service public.
Oui, j'ai repris cette phrase du fameux discours que Victor Hugo a prononcé devant la Chambre des Pairs. Il faut allumer des flambeaux dans les esprits. Oui, je pense que les artistes sont là pour éclairer la chose poétique, pour dresser des barrages contre l'intolérance et donner de l'espérance.
Vous avez expliqué que cette 28e édition, c'était un petit peu une édition charnière. Vous pouvez expliquer pourquoi ?
Parce que dans le travail que j'essaie de mettre en œuvre pour créer une relation de confiance avec les spectateurs, entre eux et la direction artistique, si sur cette 4e édition, ils suivent les propositions, s'ils sont présents, je pense que nous aurons collectivement passé un palier et que nous pourrons encore aller un peu plus loin dans ce travail de création, de découverte et d'exigence.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Samedi 5 avril dernier, les bénéficiaires de la Banque alimentaire de l'Hérault ont pu assister au beau concert donné par l'orchestre de Montpellier. Au programme, Beethoven et Elgar, mais aussi un goûter d'accueil avec présentation des œuvres dans l'Opéra Comédie. Valérie Chevalier, la directrice de l'Opéra Orchestre, était là pour accueillir et rencontrer les 291 personnes invitées. Elle nous explique comment s'est déroulée l'opération au micro de Gilles Geoffrey de Radio Aviva.
Il y a très peu en France d'initiatives comme celle-ci, c'est-à-dire de moments partagés culturels, donc de, on va dire, de solidarité culturelle. Alors, il y en a en musique actuelle, mais très peu en musique classique. Donc c'est vraiment l'initiative des deux directeurs de la communication, Pascal Dufour et Granger, qui ont eu vraiment cette idée extraordinaire, non seulement d'inviter donc, les bénéficiaires au concert, mais de les accueillir à l'opéra. Donc nous serons à l'opéra, nous serons au quorum, donc les bénéficiaires auront accès aux deux lieux, découvriront les deux lieux. On s'est dit que c'était à 4 heures, donc autant offrir un petit goûter et voilà, partager un moment et discuter avec eux, leur expliquer un peu les métiers de l'opéra. Et on a aussi une jeune femme du service pédagogique qui donne les clés d'accès, de compréhension aux deux œuvres qui seront présentées cet après-midi par l'orchestre complet de Montpellier-Languedoc-Roussillon. Alors le programme, c'est un très très beau concerto de violoncelle de Elgar, qui est un compositeur britannique, et il sera joué par Gary Hoffman, qui est un instrumentiste qui fait une grande carrière internationale, et l'Héroïque de Beethoven, donc c'est la 3e symphonie de Beethoven, qui avait été initialement écrite pour Napoléon Bonaparte, et puis une petite ouverture de Coriolan de Beethoven. Alors ce qui est intéressant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que Gary Hoffman joue sur un instrument historique, puisque le luthier n'était autre qu'Amati, qui était le professeur de Stradivarius. Donc voilà, c'est vraiment tout début 17e, c'est un instrument qui date du début 17e, peut-être même... donc c'était important aussi d'expliquer ça au public. On joue sur des instruments historiques aussi en musique classique. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont quand même 300 et qui sont venus en famille, tous ces gens. Donc là, pour nous, c'est une grande récompense, une grande réussite, et on espère bien poursuivre, développer, en tout cas reconduire cette opération.
L'autre côté de ce partenariat était tenu par la Banque alimentaire de l'Hérault. Jean-Louis Granger, directeur de la communication de cette association, nous explique le but et la logistique d'une opération qui a eu un petit peu plus de succès que prévu. On écoute Jean-Louis Granger, toujours au micro de Gilles Geoffrey pour Radio Aviva.
Nous, la volonté, c'était de donner l'occasion aux bénéficiaires de l'aide alimentaire que nous apportons de venir à un spectacle musical. Et donc, il n'y avait aucune restriction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide alimentaire aujourd'hui, c'est un quart de femmes seules avec des enfants qui ont un petit salaire et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. C'est un quart de retraités et puis beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à démarrer dans la vie. Voilà. À la fin janvier, on a écrit à toutes les associations et les centres communaux d'action sociale avec lesquels nous travaillons toute l'année, tous les jours. Et on leur a dit qu'on avait cette possibilité et qu'ils nous disent combien de places ils souhaitaient qu'on leur réserve. Quand on a vu le nombre, j'ai appelé l'Opéra Orchestre pour leur demander s'ils allaient pouvoir assumer, puisqu'on avait estimé qu'on dépasserait pas les 200, entre 150 et 200, puis finalement on est près de 300, donc voilà.
C'est un beau succès pour la 2e édition de la Journée des ressources éducatives Aude à l'école, qui s'est tenue mercredi à la salle du Dôme de Carcassonne, organisée par l'inspection académique et le Centre de documentation pédagogique sur le thème du jeu. Un reportage d'Éric Boyer, d'RCF Pays d'Aude.
Près de 600 visiteurs, soit le double de l'an dernier. Instituteurs, parents et élèves se sont donc rencontrés au travers de stands, d'ateliers et de tables rondes. L'occasion d'interroger un des organisateurs de cette journée, Jacques Bossis, inspecteur de l'éducation nationale, sur le rôle de l'enseignant aujourd'hui.
Le rôle de l'enseignant, c'est d'accompagner les élèves dans cette recherche du savoir. Ce qui est sûr, c'est que les enseignants ne détiennent plus le savoir comme ils ont pu le détenir pendant longtemps. Et donc, leur rôle change, ils sont plus accompagnateurs. Ils vont permettre à l'enfant d'éveiller sa curiosité.
C'est moins un pouvoir qui s'impose. Hein.
Voilà, ouais. C'est peut-être ça. Voilà. Et donc, c'est un rôle de passeur davantage, donc de rapport entre lui et le savoir. Alors, c'est difficile, c'est un métier qui est difficile. Moi, les enseignants que je rencontre au quotidien, c'est des gens de passion, qui aiment travailler avec les enfants, qui aiment avoir des relations avec l'environnement. Et notre travail, c'est un travail de facilitateur en fin de compte. Et c'est l'engagement que j'ai avec Fabrice, tous les deux, autour de cet événement. C'est ça, c'est faciliter finalement le quotidien des enseignants et les encourager à toujours aller plus loin, à se saisir de ce qui passe, de l'air du temps et des contenus qu'on peut apporter. Ce matin, il y avait une conférencière qui disait que les élèves, ils arrivent, il y a un déjà là. Il y a des choses qui sont déjà installées. Et il serait quand même dommage de ne pas s'en saisir. Il y a des enfants qui arrivent à l'école, ils ont déjà un vécu avant d'arriver à l'école.
Oui, ils ont leur écoute ou quoi. Hein.
Voilà. Et comment ? En se servant de ce qui est déjà installé, aller plus loin et les amener vers les compétences, vers le savoir, vers ce qui sont nos programmes, hein, qui est la mission de l'école. C'est le socle commun de connaissances et de culture à la fin de la scolarité. Mais comment partir de ce qu'ils sont et les emmener jusque-là.
Une journée Ode à l'école organisée également par le Centre de documentation pédagogique de l'Ode, prénommé maintenant la Canopée. Son directeur Fabrice Fossi nous donne son sentiment et nous fait le bilan de la journée.
Alors écoutez, nous sommes très heureux. Toutes les personnes présentes étaient très heureux d'avoir participé à cette journée. Il y avait énormément de ressources, on a eu plus de 51 stands, 12 tables rondes, 2 conférences. Et justement ce foisonnement de ressources, que ce soit des ressources humaines ou matérielles, et la mutualisation, les connexions qu'il y a eu entre les personnes, ont permis d'avoir la réussite de cette journée. Donc nous sommes très heureux de cette journée et comme le disait Monsieur Bossis, nous comptons renouveler cette expérience l'an prochain en l'ouvrant à nos partenaires du second degré.
Voilà, c'est la fin de ce carnet de région. Delta FM, qui est le rédacteur en chef ce mois-ci, vous remercie et vous dit à la semaine prochaine.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.